Radio Grande. Pam 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 pam.
J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait ce tel bon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et la séance cinéma s'ouvre sur votre radio, Radio Grand Air, radiograndair.fr, pour nous trouver également sur le net. Et on se retrouve depuis La Brèche à Sainte-Foy-la-Grande, dans un magnifique lieu, canapé, une climatisation de pointe, et surtout des salles extraordinaires pour voir de beaux cinémas. Bonjour Pascal.
Et du personnel extraordinaire.
Ah oui, j'avais oublié.
Bonjour Christophe. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 75 d'Entracte.
Et c'est parti.
C'est parti, oui.
Avec du lourd hein, cette semaine, puisqu'on a un événement cinéma. On en parlait il y a quelques jours avec toi, Pascal, dans l'émission. La fête du cinéma approche. Hein, vous allez pouvoir dès ce week-end en profiter. Et puis aussi voir de grands films qui arrivent sur les écrans. Certains sont même impatients d'aller voir ces nouvelles productions et surtout ces suites. Hein. Sur les écrans de La Brèche. On va en parler. Alors, tu vas nous présenter peut-être le sommaire de cette émission, Pascal.
Absolument. Alors, j'ai sélectionné 5 films, dont un gros poids lourd, je pense, qui arrive à grands pas, que je pense que beaucoup de monde attend. On va parler d'un film pour les tout petits, c'est Ruby, l'ado kraken. Tu vois ce que c'est un kraken?
Non.
Non, on va en reparler tout à l'heure.
C'est un fantôme, non? C'est pas vrai.
Non, pas du tout.
Ah bon?
Ah, t'es pas marin, toi. T'es pas marin. Parce que les marins savent très bien ce que c'est.
C'est pas un lapin, non? C'est maudit, non, hein, sur le...
Ouais, non, c'est pas le chouchouille, comme ils disent là-bas. On va parler aussi d'Élémentaire, un petit film pour les enfants,
ouais.
Un long-métrage. Et évidemment, on va parler d'Indiana Jones.
Et oui, on l'attend.
On l'attend avec impatience, tout le monde l'attend, oui. Donc le film de James Mangold... On va parler également aussi de Love Life. Alors Love Life, j'en avais parlé très brièvement lors du festival Annaby.
Oui,
donc
c'est vrai.
On va en parler un peu plus. Et on va parler aussi du film Camilla sortira ce soir. Et
dans le cadre
de la sortie donc, du film Indiana Jones, j'ai choisi Harrison Ford, bien sûr.
Voilà, un jeune acteur.
Ouais, un jeune acteur, oui.
Ça fait plaisir de retrouver. De
voilà, et oui, j'ai regardé un petit peu de sa filmographie, c'est vraiment, vraiment impressionnant.
Ouais.
Il enchaîne succès après succès à une certaine période de sa carrière, et c'est pas rien. C'est vraiment des gros films, quoi.
Eh bien, on a hâte, évidemment, de redécouvrir ce personnage dans quelques instants avec toi. On va commencer alors avec ce rendez-vous pour les jeunes. Et tu me disais, on fait allusion au marin, c'est ça?
Non, pas du tout.
Ah bon, d'accord. C'était pas marin, tu m'as dit.
Le Kraken, alors.
Oui.
Le Kraken. Alors, le Kraken, on le voit dans 20 milieux sous les mers.
Ouais.
Celui, la bestiole qui attaque le Nautilus.
Ah oui.
Bon, là, c'est une pieuvre.
Oui, c'est ça, ouais.
Non, là, on voit une pieuvre. Le kraken, c'est en fait un monstre marin.
D'accord.
Qui s'agrippe au bateau.
Ah oui.
Alors, certains pensent que c'est une légende. Alors, avant de parler du dessin animé, juste parce que, j'ai récupéré un petit papier, là, vite fait.
Ah, très bien.
Pour vous montrer que certaines choses sont, même si elles sont incroyables, sont possibles. Voire vraies. Le kraken, donc, s'accroche au bateau. Quand tu, regardes les vieilles cartes du 16e, 17e siècle, on voit des monstres marins. Tu sais, tu les vois, les monstres marins. Tu sais, dans l'espèce de map monde, là. Bon, certains croient que c'est de la poésie, et d'autres, beaucoup moins. Et le kraken, déjà, il a été décrit au 19e siècle par des pêcheurs qui ont été agrippés au niveau de leur barque de pêche par des tentacules géantes. Et ils ont pu s'en libérer en le coupant à la hache.
Ah ouais.
Ça a été répertorié.
D'accord.
Et écoute bien ce que j'ai juste pour vous donner une petite idée. En 1976, c'était il y a pas très longtemps. Hein. Oh, au fait, j'y suis, le kraken, tu le vois dans Pirates des Caraïbes.
Ben oui, c'est ce que je veux dire, ouais. Bon, exact. Bon,
ça paraît extravagant.
Ouais.
Mais pas tant que ça. Donc je reviens à mon année 1976. Là, on est sur un bateau de guerre américain. C'est pas des fabulateurs, ni des poètes, ni des philosophes qu'il y a à bord. Ce sont de vrais marins. Donc c'est l'USS Stein. Et à un moment, ils se font saisir le navire. Alors c'est un croiseur, hein. Pouf, pouf, c'est un gros bateau, hein. C'est
ouais,
le truc,
tu l'as.
Et il se retrouve agrippé par une bestiole absolument géante qui a endommagé le revêtement du sonar. Alors les sonars, si tu veux, du bateau, les sonars, ils étaient recouverts de caoutchouc.
Ouais.
Tu vois? Et c'est là qu'ils se sont aperçus que quand ils ont mis le bateau à quai, que le sonar avait été endommagé. Et là, il restait des traces sur le sonar. Il y avait des cercles absolument gigantesques qui correspondaient en fait à la ventouse d'un calmar géant.
Ah oui, c'est ça.
Un calmar géant.
Mais je crois qu'il y a eu un calmar géant qui a été vu récemment là.
Oui, mais ça c'est des petits.
Ah bon ?
Oui. Ils font quoi ? Ils font quelques mètres, 5-6 mètres.
D'accord.
Et donc sur le revêtement en caoutchouc donc de ce sonar, ils ont retrouvé des griffes.
Des griffes.
Des griffes plantées. C'était les griffes des ventouses.
Ah d'accord.
Tu vois du calmar géant. Donc ils ont estimé la bestiole à 150 pieds de long. Un pied égal, parce que moi j'ai fait le calcul, parce que moi je suis pareil, 30,48 cm, soit une bestiole de 45 mètres.
D'accord, il y a de quoi manger là.
Donc un calmar géant de 45 mètres
sur
attaqué.
Sur la planche.
Ah non, franchement, il y en a pour tout l'équipage. Et même plus. Non, mais t'imagines
bon,
quand même,
ouais.
45 mètres la bestiole.
C'est énorme.
Ils l'ont estimé par rapport justement à la taille
des fonds marins,
des traces.
On a des choses extraordinaires.
Voilà. Alors, souvent, ce qu'ils disaient, alors je regardais vite fait sur le kraken, souvent ce qu'ils disaient, c'est qu'avant de mourir, ces bestioles-là remontent à la surface et parfois s'agrippent à des bateaux.
D'accord.
Voilà, c'est ce que j'ai lu. Mais voilà, donc, ces choses-là qu'on prend à la légère.
C'est dans quelles eaux ?
Ah, ça, c'est une bonne question. Atlantique, peut-être.
Ouais.
Par contre, je pourrais pas te localiser l'endroit.
Oui,
je pourrais pas te localiser l'endroit. Mais voilà, donc ces histoires qu'on entendait de marins, tu vois, du 18e, 17e siècle, qui parlaient de bestioles.
Pas des gendins, c'est.
Ouais, comprenez pour de la fable. Ouais. Voilà, vous avez un exemple répertorié de 1976.
Ouais.
Oui, les monstres géants existent. Bon. Et je crois qu'on n'a pas fini de les découvrir. Mais là, on va aller sur des choses un peu plus rigolotes. Ruby, la
oui,
dos kraken.
J'imagine,
elle est toute petite.
Sinon, les petits vont pleurer. Hein.
Donc, c'est un film américain d'1h30, un film d'animation, aventure, famille, de Kirk D'Amico et Farin Pearl. Donc, âgée de 16 ans, Ruby Gilman est aussi maladroite qu'adorable. Elle tente désespérément de trouver sa place au lycée d'Océanide, où elle a l'impression d'être totalement transparente. Elle donne des cours de soutien en maths à un jeune skater dont elle est secrètement amoureuse, mais qui ne semble admirer chez elle que sa capacité à résoudre des équations. Et de toute façon, elle ne peut pas fréquenter les élèves les plus intéressants du lycée, car sa mère, qui la surprotège, lui a formellement interdit de se baigner dans l'océan. Mais le jour où elle désobéit et brise cette règle d'or, elle découvre qu'elle est descendante directe de la lignée des reines guerrières Kraken et qu'elle est destinée à monter sur le trône, jusque-là occupée par sa grand-mère, la reine guerrière des sept mers. Les Kraken ont prêté serment de protéger les océans du monde entier de la cupidité et de la vanité des sirènes, leurs ennemis jurés. Le seul véritable problème pour Ruby est qu'elle va donc devoir s'opposer à Chelsea, la nouvelle la plus jolie et la plus populaire du lycée, qui se trouve être une sirène.
C'est beau.
Gros synopsis. Regarde. T'en as qui font trois pages,
ah oui,
trois lignes, là, celui-là, il est quand même balèze.
Il faut développer, ouais.
Donc, Ruby, donc, c'est une habitude de DreamWorks. Donc, le réalisateur de Ruby, l'ado Kraken, donc Kirk D'Amico, est familier de la société de production DreamWorks, puisqu'il a mis en scène les Croods. Je sais pas si tu t'en rappelles.
Oui.
Il explique.
Ça me parle, ouais.
En tant que cinéaste, j'ai toujours cherché à inverser les attentes dans ma manière de raconter des histoires. En ce qui concerne Ruby, l'ado Kraken, l'une des choses les plus excitantes était l'opportunité de le faire avec la mythologie des Kraken et des sirènes. Traditionnellement, le Kraken est dépeint comme une créature monstrueuse, une entité à craindre et à éviter à tout prix. Oui, bien sûr. Mais dans ce film, nous avons voulu envisager les Kraken comme des protecteurs des océans aussi puissants que bienveillants. De même, nous avons voulu renverser l'image traditionnelle des sirènes pour envisager cette mythologie avec un regard différent, plus complexe et nuancé. Alors, comment est né le projet ? Donc, Ruby Lado Kraken est un film original qui ne fait pas partie d'une franchise. L'idée était de réinventer le mythe du Kraken avec cette jeune fille, Ruby Gilman. Et comme le réalisateur nous dit, au début nous n'avions qu'un pitch, mais DreamWorks a adoré notre vision et nous a donné le feu vert pour écrire un scénario. L'idée était de suivre les aventures de cette famille de monstres sous-marins, les Kraken, qui vivent parmi nous. Nous avons vraiment tenté de surprendre le public avec l'univers que nous avons créé. DreamWorks adore que vous preniez un monde et des personnages familiers tout en les réinventant. Et je crois que vous allez être surpris par ce que nous avons fait avec les Kraken. Quand on pense à un Kraken, on imagine un terrible monstre qui fait s'échouer des navires et dévore les humains, alors que dans l'imaginaire, une sirène est une adorable princesse. Et ici, nous allons vous surprendre avec une autre vision de ces personnages mythiques, confie la productrice Kayleigh Cooney. Alors pour la sirène, Kirk Dabico et ses équipes se sont inspirés de la description de ces créatures telles qu'elles sont représentées dans l'Odyssée. Le cinéaste précise, elles ensorcellent les marins pour les dévorer. Et oui, rappelons l'épopée d'Ulysse. C'était beaucoup plus amusant de revenir à l'état sauvage des sirènes plutôt que de les représenter en demoiselles parfaites, comme dans les films de Disney. Pour les Kraken, ces derniers ont toujours eu mauvaise réputation et nous voulons montrer un visage différent de ces derniers. C'est pour cela que notre héroïne, la jeune Ruby Gilman, utilise ses méga-pouvoirs pour faire le bien et non le mal. Kayleigh Cooney ajoute, nous nous sommes également inspirés de notre adolescence et j'ai moi-même été une ado qui se sentait mal dans sa peau. Ruby me semble donc un peu dans ce sens. Elle est comme toutes les jeunes filles. Elle doit trouver sa voix afin de pouvoir exprimer réellement ce qu'elle ressent. Et je pense que toutes les jeunes filles vont pouvoir s'identifier à elle. Un Kraken vraiment sympatoche.
C'est ce que j'allais dire. Effectivement, ça laisse en voix.
Ouais, c'est assez insolite quand même comme univers quand même. Voilà, donc Ruby Lado Kraken, ça sera à découvrir à la brèche cette semaine.
Voilà, n'hésitez pas, soyez curieux. Emmenez vos parents et allez faire un petit tour dans les salles de la Brèche à Sainte-Foy-la-Grande pour découvrir cette belle production.
Voilà, que nous aurons en sortie nationale qui fera partie aussi de la fête du cinéma à partir du 2.
Ah oui, c'est important hein, de le préciser. Tu as raison, Pascal. On va enchaîner avec notre rendez-vous. Là, on va brosser quatre thématiques. Le feu, la terre,
l'eau,
l'air.
Tous les
l'eau.
Éléments.
Ouais, tous les
oui,
éléments.
Tous
ouais.
Les éléments,
ouais.
On va aller chez les studios Pixar, là, cette fois-ci. On va parler d'Élémentaire. Alors, j'en avais parlé super brièvement. Donc, je reviens un peu plus, avec un peu plus de documentation. Hein. Donc, c'est un film américain d'1h41 d'animation comédie, hein, à partir de 6 ans, de Peter Sohn. Alors, comme je l'avais dit la dernière fois, en 2015, Peter Sohn avait réalisé Le Voyage d'Arlo. Hein. L'Arlo, c'était un petit dinosaure.
Ouais.
Et là, il en est à son deuxième long métrage. Hein. Donc, ce film-là a été présenté en clôture du Festival de Cannes, hein, de cette année. Hein. Donc, dans la ville d'Element City, la terre et l'air vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est ici que réside Flamme, une jeune femme intrépide et vive d'esprit, au caractère bien trempé, et Flac, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme. L'amitié qui se porte remet en question les croyances de Flamme sur le monde dans lequel ils vivent. Alors c'est un film très personnel, parce qu'Élémentaire est une histoire très personnelle pour Peter Sohn, qui a injecté dans la relation entre Flamme et Flac des éléments de son propre mariage. Je suis coréen, elle est américaine, à moitié italienne. Au début, j'ai caché cette relation à mes parents parce qu'ils voulaient, selon la tradition, que j'épouse une coréenne. Les derniers mots de ma grand-mère ont été littéralement « épouse une coréenne ».
Ça, c'est clair.
Le superviseur du scénario, Jason Gatz, résume « Si l'on prenait Peter Sohn et que l'on divisait en deux, et qu'on le divisait en deux personnages, on obtiendrait Flamme et Flac ». Donc, le réalisateur Peter Sohn, d'origine donc coréenne, s'est inspiré des différences culturelles qui les séparent d'avec sa femme, une américaine à moitié italienne. Il a aussi puisé dans le décalage qu'il a avec ses propres parents qui ont immigré de Corée au début des années 70. Et comme il nous dit, je suis donc né et j'ai grandi avec les traditions, la langue et la culture coréenne dans la ville très américaine de New York. Cela a donné lieu à des chocs culturels entre la première et la deuxième génération. J'ai tenu pour acquis les épreuves et les tribulations qu'il aura fallu traverser. Ainsi, le personnage de Flamme est, à l'instar de Sohn, une immigrée de la deuxième génération. Seuls ses parents ont immigré de Fireland à Element City, où elle est née et a grandi. Et comme il nous dit dans le film, elle entreprend un voyage pour comprendre qui elle est et ce que ses parents lui ont transmis, souligne le metteur en scène. Selon la productrice donc de la Denise Rim, plus de 100 immigrants de première ou de deuxième génération travaillant chez Pixar se sont réunis pour évoquer leur passé et leur vécu avec l'équipe du film. Et comme ils nous disent, donc comme beaucoup d'entre nous venaient d'ailleurs, il y a eu énormément d'histoires émouvantes sur ce que les gens ont traversé pour venir ici. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment se rendre compte de l'impact que de tels échanges ont pu apporter à notre histoire. Je trouve ça assez marrant quand même que tous ces gens ont apporté un petit peu leur passif pour essayer de donner des idées donc pour réaliser donc ce petit film, ce film d'animation, donc le dernier Pixar, donc élémentaire.
Mon cher Wilson.
Absolument, qui sera à découvrir à la Brèche cette semaine en 2D.
Et en 3D.
Et voilà, il y aura deux dates en 3D. Hein.
Ça avait été présenté au Festival de Cannes, je crois.
En clôture.
En clôture.
Oui, oui, en clôture du festival. Mm-hmm. Absolument.
Voilà, très bon rendez-vous là aussi. Allez-y, faites un petit tour du côté de la Brèche pour découvrir Élémentaire. Vous avez passé un excellent moment. Ça permet un petit peu de voir autre chose et puis surtout de se poser tranquillement dans une belle salle.
Absolument. Et pour à découvrir en famille. Hein. Et puis je trouve que le sujet est vraiment sympa. Hein.
Oui.
Le sujet de la différence culturelle, du déracinement et de l'adaptation dans un nouveau pays. Hein. Et puis aussi, parfois aussi, pour certains, c'est la recherche aussi de leurs origines, c'est-à-dire de regarder un petit peu du côté des grands-parents et regarder un petit peu leur culture, puis comprendre un peu mieux le pays duquel ils sont originaires, quoi.
Eh bien, c'est noté, Pascal. Alors, pour la suite, il suffit d'avoir un chapeau, d'avoir aussi un lasso.
Un fouet.
Mmh. Et puis surtout, une bande sonore extraordinaire. Voilà. Voilà, on se retrouve pour les aventures.
Alors, vous l'attendiez. Il est là.
Il est là, c'est vrai.
Il est déjà à la Brèche.
J'ai vu arriver à la voiture.
Non, mais il est déjà à la Brèche. Indiana Jones, on l'a, nous avons le film. Ça y est, on est dans les starting blocks. J'attends juste les clés de déverrouillage, tu sais.
Ah oui, c'est vrai.
Il te les donne vraiment au dernier moment, tu sais.
Ça, c'est pas.
Mais oui, c'est quoi.
Et on peut pas craquer.
On peut pas craquer. Non, du tout. Non. C'est un système quand même assez bien foutu.
Ah ouais.
Et dommage parce que, alors, il y a des films qui sont déverrouillés vraiment à partir du lundi, tout ça. Alors celui-là, non. Et c'est dommage parce que franchement, là, j'avais un peu de temps aujourd'hui. J'aurais bien voulu regarder un petit peu les images du début.
Eh oui.
Mais non. Bon. L'Amérique a dit non, vous aurez la clé au dernier moment, mais presque.
Tout le monde en même temps.
Ouais, voilà. Parce que des fois, tu sais, ils te déverrouillent le film le mardi soir à minuit.
Ah oui, d'accord.
Minuit une.
Ah ouais. Ouais,
ils sont taquins, des fois.
Voilà, donc on va voir les nouvelles aventures.
Oui.
Indiana Jones.
Et le cadran de la destinée.
Voilà, on a eu le temple maudit. On a eu les boules de cristal, non pas les boules de cristal, mais enfin c'était les crânes de cristal.
Les cornes.
les cornes de cristal, ouais.
Alors, juste pour revenir sur Indiana Jones, parce qu'il y a un petit historique, hein, évidemment, il y en a eu combien alors
5.
3, 4, 5. Exactement.
Ben
tu peux me les citer?
Alors, le temple maudit.
Non. Oh non.
Ah non, mais...
1981.
Ah non, mais attends, oui, dans l'ordre.
Oui.
L'Arche. Ah oui, l'Arche perdue.
Les aventuriers de l'Arche perdue, exact.
Oui,
numéro 2, 1984.
Oui, bon, donc on l'a dit. Hein,
Indiana Jones, c'est le temple maudit.
Voilà, je ne savais plus où j'étais.
Numéro 3, 1989.
Bah, c'est les crânes de cristal, ça, non?
Non. C'est Indiana Jones, c'est la dernière croisade.
Ah oui,
1989.
C'est avec le retour de Sean Connery.
Exact. Ensuite, numéro 4.
Oh ben les crânes de cristal.
Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, ouais, en 2008. Ouais. 2023, évidemment. Je viens de le citer. Alors, Indiana Jones, c'est une saga cinématographique et télévisuelle américaine, hein, créée par George Lucas.
Ah oui, c'est George Lucas.
Et ouais. Oui, il mettait en scène le docteur Henry Walton, alias Indiana Jones Jr., un professeur d'archéologie. Donc, la saga est constituée de 5 films, hein, donc je viens de citer. Et les 4 premiers opus ont été réalisés par Steven Spielberg. Est produit par George Lucas, qui a également rédigé l'histoire de chaque film en question, ainsi que supervisé la série télévisée. Il y a une série télévisée en parallèle.
Ah bon?
Le 5e volet en préparation sera réalisé et coécrit cette fois-ci par James Mangold, donc évidemment, dont Harrison Ford est le principal interprète du personnage éponyme. Alors évidemment, il existe aussi des bandes dessinées, des romans et des jeux vidéo.
Ah oui, ça, je savais qu'on avait décliné un petit peu. Le personnage dans des,
ah bah oui,
des jeux vidéo.
C'est vendeur, des... oui. Donc en 2012, la Walt Disney Company rachète Lucasfilm et acquiert les droits mercatiques et de distribution de la saga un an plus tard. Et donc l'entreprise envisage alors de produire de nouveaux films, mais après avoir relancé la très lucrative saga Star Wars, l'autre univers phare de Lucasfilm. En octobre 2015, donc Steven Spielberg indique qu'il réalisera probablement un Indiana Jones 5 avec Harrison Ford dans le rôle titre. Et le 1er janvier 2016, Robert Iger, le président directeur général de la Walt Disney Company, confirme la mise en production de cette suite. Oui, ça a pris du temps quand même.
Ça fait un petit moment qu'on 2016, en parlait, hein. Ouais, c'est vrai.
Donc le 22 juin 2016, Robert Iger, un PDG de Disney, souhaite que la franchise Indiana Jones prenne un nouveau départ après la sortie du cinquième opus. Le 7 mars 2017, Alan F. Horn, président de Disney Studios, annonce la sortie le 19 juillet 2019 de Indiana Jones. Néanmoins, le 25 avril 2017, la date de sortie est repoussée au 10 juillet 2020.
Ah, je sais pourquoi.
Par les studios Disney.
Parce qu'il s'est blessé sur le tournage.
Et il disparaît dans le papier. Ah d'accord, c'est ça?
Ben, il s'est blessé, oui.
Ok. Eh ben, dis donc. Donc, le scénariste initial est David Cup. Donc, sa date de sortie a été repoussée à maintes reprises et elle est par la suite officiellement annoncée pour le 30 juin 2023. Oui.
Nous y sommes.
C'est bientôt. Nous y sommes. C'est pas bientôt, c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui. Et le film se fera donc sans Spielberg qui préfère laisser sa place à James Mangold, mais aussi sans Cup qui quitte le projet après Spielberg. Mangold s'entoure alors de deux scénaristes de son précédent film. Donc, évidemment, il a créé un super film, c'est Le Mans 66.
Ah oui, excellent. Grand film. Excellent.
Grand film très beau.
Qu'on a revu image récemment
absolument hallucinante.
Télévision.
Ouais, 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 ouais. Et Harrison annonce par la suite que c'est la dernière fois qu'il incarnera le célèbre archéologue et annonce qu'il attend que ce dernier n'apparaisse plus sur grand écran sans lui.
Ah oui, d'accord.
Voilà, voilà, pour vous donner un petit peu l'historique de tous ces cinq volets. Donc pour revenir à nos moutons.
Ah oui, c'est important.
Indiana Jones, donc, et le cadran de la destinée, donc un film américain. Alors attention, 2h34, film ouais. D'action et d'aventure. Alors en général, je dis un truc, hein. Il pourrait faire même 3 heures, quand c'est du James Mangold, ça passe.
Oh, on en prend plein les yeux.
Tout seul.
Voilà. On voyage.
Qu'a-t-il réalisé de remarquable, James Mangold? En 97. Grand film, avec Sylvester Stallone et Robert De Niro. Moi alors, aussi. Tu as cité une fois. On en a parlé. Cop.
Ah oui.
Cop. Copland.
Ah oui, Copland. Ouais.
Copland. Ouais. Très bon film. En 2007, pareil, un grand film. Ça, c'est un remake. Hein. C'est un remake d'un film qui est nettement plus ancien, je crois qu'il est sorti dans les années 50 ou 60. 3h10 pour Yuma, avec Russell Crowe, Peter Fonda et Christian Bale. Excellent film. Alors, moi, j'aime pas trop les remakes, je l'ai vu, je l'ai revu même d'ailleurs, parce que Russell Crowe est vraiment excellent dedans. C'est un très bon film. Qu'a-t-il réalisé d'autre? En 2013, avec Hugh Jackman, Wolverine, Le Combat de l'Immortel. Évidemment, en 2016, donc Le Mans 66 avec Matt Damon et l'excellent Christian Bale. Le Mans 66, franchement, moi j'ai été bluffé par...
Oui, c'est...
Déjà, par les personnages.
Très très bon.
Alors, ouais. Là, parce qu'ils allaient bien ensemble, Matt Damon et Christian Bale. Alors, ils sont frères, je crois, dans le film.
Oui, c'est ça.
Mais c'était les images. Les images sont époustouflantes. Elles sont d'une qualité vraiment photographique de haut, très haut niveau. Voilà un petit peu de quoi est capable James Mangold. Alors évidemment, quand on lui a posé le scénario de Indiana Jones... Je pense que le film est réussi. Je pense vraiment.
Oui.
Alors, qui va-t-on retrouver
Harrison
dans
Ford.
Cet opus? Évidemment, Harrison Ford. On va retrouver aussi Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen. Si, il fallait toujours des vilains allemands, alors c'est un truc qui ne peut pas s'en empêcher.
Vrai. C'est vrai, chaque fois.
Il fallait un allemand très froid, vertical et tout. Alors, Mads Mikkelsen, franchement, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Il est un peu aussi, il est super poker face.
Ouais.
Ouais, un grand, grand, grand acteur. Antonio Banderas.
Ah,
et oui.
Antonio Banderas.
Oui, oui. John Rhys-Davies, Seanette Rainey Wilson, Thomas Kretterman et Toby Jones. Alors, nous sommes en 69. Après avoir passé plus de 10 ans à enseigner au Hunter College de New York, l'estimé Dr. Jones, professeur d'archéologie, est sur le point de prendre sa retraite et d'écouler des jours paisibles. Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Elena Shaw, qui est à la recherche d'un artefact rare que son père a confié à Indy des années auparavant. Le fameux cadran d'Archimède. Une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. En arnaqueuse accomplie, Elena vole l'objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre au plus offrant. Indy n'a d'autre choix que de se lancer à sa poursuite. Il ressort son fouet et son blouson de cuir pour une dernière virée, et là ça va chauffer... Grave. Alors évidemment, c'est un projet de longue date. Hein. Indiana Jones et le cadran de la destinée est un projet donc initié au début des années 2010. Si la production du film a pris beaucoup de retard, c'est notamment en raison de divergences artistiques entre Spielberg et le scénariste, donc David Cup, Harrison Ford et Disney. C'était compliqué de mettre d'accord.
Mettre tout le monde d'accord, sinon rien.
Voilà, donc comme ils nous disent, donc j'ai essayé plusieurs versions du scénario avec Spielberg et elles avaient toutes des bonnes choses et des choses qui ne fonctionnaient pas. Ce qui arrive. Mais c'était très difficile de contenter tout le monde et d'accorder toutes les parties. Ça n'a pas marché. Confié Cup à Dan of Geek. La crise sanitaire a ensuite encore retardé les choses. Au final, Spielberg a quitté le projet en tant que réalisateur. David Cup l'a ensuite suivi. James Mangold, choisi pour être le nouveau metteur en scène, a alors écrit un script en compagnie de Jazz et John Henry Butterworth, qui ont écrit notamment Le Mans 66. Donc les aventuriers de l'Arche perdue avaient rapporté 367 millions de dollars dans le monde. Indiana Jones et le Temple maudit, 333. Indiana Jones et la dernière croisade, 474. Et le crâne de cristal, 787. Tu vois, à chaque fois, on essaie vraiment, ça augmente.
Ça monte.
Alors, Harrison Ford s'est blessé à l'épaule lors d'une répétition d'une scène de combat.
Voilà. Ouais.
L'acteur avait déjà subi une fracture à la jambe lors du tournage de Star Wars. Le réveil de la force en 2014, et avait dû observer une période de repos de 8 semaines avant de pouvoir reprendre le tournage. Alors, évidemment, c'est une durée record, hein, d'une durée estimée entre 2h22 et 2h23. Indiana Jones est le cadran de la destinée et le film le plus long de la saga, devant Indiana Jones et la dernière croisade qui faisait 2h07. Et les autres faisaient 1h58. Bon, bref, c'est du kiff, on va dire. Donc, Jürgen Voller, alors c'est marrant, c'est un joli nom, Voller. qui est joué par Mads Mikkelsen, est inspiré du vrai nazi devenu scientifique de la NASA, Werner von Braun. Donc, dedans, il y a aussi... alors, Shia LaBeouf, tu vois qui c'est un petit peu, Shia LaBeouf.
C'est pas 2001 ?
Non, il a joué dans notamment Fury.
D'accord, non, mais c'était pas celui qui joue... Enfin, le jeune qui jouait dans un des Indiana Jones jeunes,
oui.
Qui était 2001 ?
C'est possible. Donc si le personnage de Shia LaBeouf n'est pas présent dans Indiana Jones et le cadran de la destinée, il sera quand même évoqué. C'est James Mangold lui-même qui l'a affirmé après auprès d'Entertainment Weekly, tout en promettant que le public saura ce qu'il est devenu. Revenu dans l'épisode précédent qui se terminait par son mariage avec le héros, Marion Ravenwood ne devrait pas non plus apparaître, même si son interprète Karen Allen a longtemps laissé planer le doute. Donc si il se passait aussi une chose sur le je vous racontais quand même l'anecdote qui s'est passée quand même sur le, on parle de blessés et tout ça.
Ouais.
Donc quelques jours avant la fin des prises de vue, Harrison Ford a joué les héros pour de vrai dans son costume d'Indy. Selon Page Six, l'acteur de 79 ans était en train de tourner une scène quand il a aperçu un technicien s'effondrer. L'artiste a alors foncé vers son collègue qui était en train de faire un malaise cardiaque et lui a prodigué les premiers soins, criant à son équipe d'appeler les secours. Finalement, le collaborateur sera sauvé et transporté à l'hôpital. Et comme il nous dit, Harrison Ford donc, se tenait à quelques mètres seulement et il a crié qu'il lui fallait un médecin. Il y a eu pas mal de panique. Les premiers à l'aider lui ont fait un massage cardiaque en attendant que l'ambulance et les médecins arrivent, a précisé une source de Page Six. Et bien comme quoi, tu vois, il s'en est passé des choses sur ce tournage.
Ouais.
Si les cartes donc, précédents Indiana Jones sont réalisées par Steven Spielberg, Indiana Jones est le cadran de la destinée et mise en scène par James Mangold, à qui l'on doit, entre autres, évidemment, Le Mans 66. Avec Christian Bale et Matt Damon, Logan avec Hugh Jackman, ainsi que le biopic sur Johnny Cash, Walk the Line, et le polar Copland avec Sylvester Stallone. Spielberg reste toutefois producteur sur ce cinquième volet. Donc, Harrison Ford a rajeuni dans
oui.
le film.
Donc, c'est ce que j'avais entendu, effectivement.
Donc il s'offre un petit coup de jeûne numérique donnant lieu à des images impressionnantes. Et comme le réalisateur nous dit, je l'ai juste filmé, il faisait comme s'il avait 35 ans.
C'est original. Il en a 80 et quelques. Hein.
Exactement, 79.
79
ah ben, au niveau du tournage, ouais, quand il a tourné, donc, il était à 80, je pense. Quand il était à Cannes, je pense qu'il en avait 80.
Oui, 82.
Mais la technologie à l'œuvre, c'est tout autre chose. Nous disposions de centaines d'heures de rush de lui, des gros plans, des plans moyens, des plans larges, avec tout type d'éclairage, de nuit comme de jour. Je pouvais filmer Harrison Ford comme un acteur de 79 ans qui jouait un homme de 35 ans le lundi, et je pouvais voir dès le mercredi des images où sa tête avait été remplacée. Pourquoi ? Vive le numérique.
Ouais.
C'est vrai qu'on fait vraiment tout un tas de choses avec le numérique. On fait même revivre, on peut même faire revivre des acteurs disparus. Ce que je trouve pas. Ah oui. Je sais que ça a été évoqué une fois.
Moi, ouais, j'imagine un Bourville, un. Ouais, un voilà.
Je trouve ça pas, c'est, ouais, pas terrible. Ouais. Il n'a pas fallu attendre un an avant d'avoir le premier aperçu donc du rajeunissement. La technologie est incroyable, mais de bien des manières, je n'y ai pas vraiment pensé. J'étais juste concentré sur le fait de tourner cette ouverture, soit environ 25 minutes d'un spectacle fabuleux où j'ai eu la chance de pouvoir me lâcher. Le but était d'offrir au public un large coup de ce qui leur avait tant manqué. Car lorsque le film se poursuit en 1969, donc les spectateurs devront s'adapter à ce que la saga est désormais, ce qui est différent de ce qu'elle est. Elle était avant, a expliqué James Mangold à Total Film. Donc il y a un jeune français, donc c'est le jeune français, donc Ethan Isidore, a été choisi pour jouer l'associé serviable d'Elena. Il avait 14 ans au moment du tournage et décrit son personnage comme débrouillard et plutôt cool. Il sait comment agir et comment se comporter dans chaque situation. Il pense qu'il est un adulte et qu'il est le meilleur gars du monde, ce qui est vrai. Au début, il n'aime pas Indiana Jones parce qu'il voit en lui un rival en tant que meilleur ami d'Elena. Or, je pense que Teddy a le béguin pour elle. Voilà un petit peu pour vous éclairer un petit peu sur tous les personnages donc de cette saga. Alors Antonio Banderas, oui, pour revenir sur,
eh ben oui,
à lui.
Pourquoi lui?
Alors il joue Reynaldo, un ami marin d'Indy à qui ce dernier fait appel quand il a besoin des services d'un plongeur émérite en Grèce. Reynaldo est désormais un pêcheur, mais c'est probablement un partisan qui s'est battu pour la liberté, peut-être pendant la guerre civile espagnole ou plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un homme courageux, un peu fou, mais dans le bon sens du terme. Mais surtout, c'est un ami loyal pour Indy. Je pense qu'à ce moment précis de l'histoire, il représente tout ce dont l'archéologue a besoin.
Ah, c'est étonnant d'avoir pensé à lui.
Ouais, il y a tout un petit univers tout autour qui gravite là, avec tout un tas de personnages. Bon, mais moi je pense que ça va être chouette.
Mm-hmm. On a hâte. On a hâte de voir ce nouveau volet de Indiana Jones, qui sera certainement le dernier.
Oui.
Après, il n'y a plus rien.
Ah non, après, il n'y a pas plus rien. Il y aura autre chose.
Ouais.
Il y aura tout simplement autre chose. Hein. C'est évidemment une suite de la suite de la suite de la suite. Mais après, je pense qu'il faut passer un petit peu à l'imagination, recréer des choses, des univers, et pas reprendre des franchises ou des personnages qui existent déjà depuis très longtemps. Donc oui, place à autre chose, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Donc lasso, chapeau, les bottes,
blouson de cuir,
ouais, une boussole.
Une bonne boussole, le cadran de la destinée, roule ma poule, on va sauver le monde.
Eh bien, on va sauver le monde tout de suite sur Radio Grand Air avec la bande-annonce.
Je pars à la retraite.
Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on boit?
Un verre pour ma filleule.
Vous avez trouvé quelque chose avec papa? Un train pendant la guerre. Un cadran qui pourrait changer l'histoire.
Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue?
On ne bouge pas. Faut qu'on sorte d'ici. Désolé.
Elena! Le professeur Jones, trouvez-le. Hitler a commis des erreurs, et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé. Et vous ensuite?
Et moi ensuite? Ça s'appelle le capitalisme. À droite!
Attachez-vous, professeur, nous ne sommes pas à l'abri de turbulences.
Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Et là, tu t'offres un dernier triomphe.
Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. J'ai subi des tortures vaudou. J'ai pris 9 balles. Donc une fois par ton père.
Ah, je suis désolé.
Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie.
Voilà, on est prêt pour voir cette suite. d'Indiana Jones, on a hâte, hein, on le disait il y a quelques instants, avec toujours ses secrets, ses portes secrètes, ses codes, ses mystères. C'est relativement sympa. Moi, j'ai bien aimé le tout premier. Il rentre dans le temple, là.
Le temple maudit.
Le temple maudit, puis t'as toujours des guerriers cachés avec des sarbacanes et tout, là. Voilà. Donc je pense que ça va être sympa, on va se dépayser en tout cas pour voir ce film. Alors je sais pas, on va voyager un petit peu, dans quelle région, dans quel pays on va aller
franchement là au niveau du contenu, moi je ne suis pas au courant, mais tant mieux.
Ouais.
Faut que ça reste une surprise.
Exactement, ouais.
Et oui. Indiana Jones.
Cette semaine, c'est l'événement.
Ouais. C'est maintenant, c'est parti. Alors pareil, il fera partie aussi de la fête du cinéma.
Ah oui.
Et oui.
Intéressant.
Et oui, il est inscrit pour la fête du cinéma. Et on le jouera. Évidemment, on le joue à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi 1er. Mais à partir du dimanche 2, c'est 5 euros la place. Ouais. À toutes les séances.
Donc, très intéressant.
Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas se priver de cinéma. Il faut vraiment aller se décontracter et puis aller découvrir le film.
Il risque d'avoir beaucoup de monde.
Ouais, je pense. Oui. Je pense qu'il sera très bien fréquenté. On va voir un petit peu comment ça se comporte. Hein. Mais je pense que c'est le film. Mais moi, je le voyais un peu comme ça. C'est le film du mois de juin qui va donner un peu de peps pour la fin juin, quoi. Et le début juillet.
Sachant que nous avons le nouveau Mission Impossible qui va arriver juste derrière.
Exactement. Dont l'avant-première. Tant que j'y pense, hein, l'avant-première, ça sera le mardi 11 juillet à 20h. Vous avez l'avant-première donc de Mission Impossible, donc Dead Reckoning.
Première partie.
Partie 1. Ouais. Donc venez voir découvrir Ethan Hunt.
Toujours en forme.
Toujours en forme. Toujours agrippé à des hélicoptères,
c'est
des
ça,
avions.
Ouais. Et toujours à fond sur sa moto.
Absolument. On va revenir sur le quatrième film, Love Life.
Exactement.
Qui est un film franco-japonais de 2h04. C'est un drame de Koji Fukada. Alors au niveau des acteurs, on va retrouver Fumino Kimura, Tomorovo Taguchi, Teta Shimada, Kento Nagoyama, Atome Tsunada, Hirona Yamazaki et Misuzu Kano. J'ai fait un sans faute, FM.
C'est bien, c'est bien.
Donc c'est l'histoire de Taiko qui vit avec son époux Jiro et son fils Keita en face de chez ses beaux-parents. Tandis qu'elle découvre l'existence d'une ancienne fiancée de son mari, le père biologique de Keita refait surface. C'est les débuts d'un cruel jeu de chaises musicales dont personne ne sortira indemne. Alors, il a fait partie évidemment du Festival Hanabi, ce film-là. Et le Festival Hanabi, tu vois, c'était un film par jour.
Ah oui.
C'était juste une séance. Hein. Donc là, vous aurez l'occasion de venir le découvrir.
Et en version
évidemment,
originale.
En version originale, sous-titrée, bien sûr. Pour tous les amoureux de la culture japonaise. Donc ça sera à découvrir à la brèche cette semaine.
Eh bien, c'est noté sur notre tablette, Pascal. Camilla sortira ce soir. Alors c'est un message peut-être.
On va partir en Amérique du Sud.
Ouais.
On va partir en Argentine. Et c'est pas souvent qu'on a des films de argentins. On va parler du film donc, de Inés María Barrio Nuevo. Un film argentin d'1h43, c'est un drame, une romance. Hein. Au niveau des acteurs, on va retrouver Nina Ziembrutsky. C'est vraiment
ça
compliqué.
Russe.
Ah, mais celui-là, ouais. Mais je crois que c'est. Oui, mais il n'est pas argentin, ce nom-là. Adriana Ferrier, Carolina Rojas, Federico Sac, Maite Valero, Guillermo Fenig. Lorsque sa grand-mère tombe gravement malade, Camila doit déménager à Buenos Aires avec sa mère et sa sœur. Elle quitte alors son lycée public pour une institution privée très traditionnaliste. Dans ce milieu hostile, elle fait la rencontre de Clara, une camarade de classe qui cache un secret. Une révolution féministe est sur le point de commencer. Donc Camila sortira ce soir et le premier long métrage, Inés María Barrio Nuevo, met seule en scène et dont elle n'a pas écrit le scénario. Elle a co-réalisé donc certains films écrits par Gabriela Vidal. Elle a été séduite par cette histoire d'adolescent centrée sur le harcèlement. Porter à l'écran le récit d'une autre personne a été un défi pour elle. Et comme elle nous dit, je suis toujours seule pour écrire mes films. avec mes chats et mon compagnon. Cette fois, j'ai eu l'impression d'aller un peu plus loin. Comme si j'acceptais d'être une réalisatrice plus mature, capable de prendre des risques sur le projet de quelqu'un d'autre, en travaillant avec un scénariste que je ne connais pas. Donc il y a une équipe principalement féminine, donc c'est vraiment la révolution. Donc l'équipe de Camilla sortira ce soir est composée de 80% de femmes. Et comme elle nous dit, il est très différent pour une femme de tourner une scène de sexe, donc avec un homme en face d'elle plutôt qu'avec une femme. Au-delà des raisons évidentes, il est question du regard, de la sensibilité, de la façon dont ces scènes sont faites. Ce sont des choses très subtiles. Comment on entre sur le plateau, comment on parle ou comment on place l'équipe de tournage qui historiquement a presque toujours été composée d'hommes rudes, comme elle nous dit, explique Inès Maria Barrio-Nuevo. Elle revendique l'harmonie sur un plateau. Et comme elle nous dit, je sais qu'il y a des réalisateurs qui ont des méthodes extrêmes pour obtenir le meilleur de leurs acteurs. Et ce n'est pas mon cas. J'aime travailler à partir de l'harmonie du dialogue. Pour moi, le tournage est le moment le plus joyeux de ma vie lorsque je fais ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire écrire et réaliser.
C'est beau.
C'est beau, c'est dit, c'est clair. Message reçu.
5 sur 5.
Donc Camilla sortira ce soir, on l'aura donc en version originale sous-titrée, hein, donc à la brèche, cette semaine.
Eh bien c'est noté Pascal. On va revenir sur l'acteur de la semaine, c'est lui qui a fait en fait tous les écrans de télévision il y a quelques jours au Festival de Cannes.
Ouais, il est allé partout, sur tous les plateaux.
Ah ouais. Ouais. Et oui. Très gentleman, hein, toujours là,
ah bah oui.
À fond et
toujours sympa.
Toujours disponible et puis oui. Sympa et
oui.
Toujours voilà très attentif à son public et moi je trouve que c'est voilà un artiste un comédien on s'y attache en tout cas Harrison Ford
évidemment
le personnage
grosse figure, oui grosse figure évidemment du cinéma on va dire américain contemporain. Il est né le 13 juillet 1942 à Chicago. C'est quel état des États-Unis? J'adore la géographie.
Ah, Chicago.
Ouais. C'est pas facile. Ça commence par un I.
Alors là, non, je ne sais pas.
Illinois.
D'accord. Oui, bon, j'aurais pas forcément trouvé du premier coup. Là.
Oui. Je sais. Tenez, je crois qu'il y en a 52. 51
ouais,
états,
ouais.
52.
Ouais,
évidemment, ça nous fait un homme de 80 ans. Donc, il est acteur, producteur délégué, producteur exécutif. Évidemment, il a mis un peu de sous, un petit peu dans l'industrie cinématographique. Harrison Ford, c'est 55 années de carrière.
55.
Combien de films?
Allez, la louche, 150?
Non.
Pas plus.
Pas autant.
Ah non.
78.
D'accord.
70 films et séries tournées.
Ouais.
4 prix. Donc, le premier en 2002, il a eu le Golden Globes en 2002. En 2010, il a eu le César d'honneur en 2010, donc, à la cérémonie des Césars, évidemment. En 2011, au Festival de films de Locarno, il a eu le Léopard d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et en 2023, évidemment, tout le monde le sait, ça, tout le monde l'a vu, il a reçu la Palme d'honneur.
Oui.
À Cannes, évidemment,
Festival
il a été
Cannes,
reçu,
ouais.
Ovationné. Mmh. Et voilà, c'était vraiment une innovation pour Harrison Ford. Alors au niveau de sa filmographie, évidemment, 78 films, ça pèse, c'est beaucoup.
Ouais,
c'est une carrière
ça.
Absolument immense. Son premier film,
ouais.
C'est en 1966. Un film de Bernard Girard qui s'appelle Un Truand. Ça, c'est son première apparition... Mais son premier grand rôle pour Harrison Ford, c'est dans un film de 1970, The Intruders. Oui, il jouera le rôle de Carl. En 1973, on le verra dans American Graffiti, de George Lucas, avec Richard Dreyfuss et Ron Howard. On remonte dans le temps. En 77, alors là, la fastoche. Hein.
77, bah oui, c'est Star Wars.
Star Wars, et évidemment, La Guerre des Étoiles, de George Lucas.
Ouais.
Avec Carrie Fisher et Mark Hamill. En 1979, et là effectivement on le voit, il est vraiment tout jeune, il joue le rôle d'un colonel. Je vais te mettre sur la piste. Sur une base militaire au Vietnam. Un film avec Robert Duvall, Marlon Brando, Martin Sheen.
Ah oui, alors attends, oui.
Un film de Coppola.
Alors, Coppola.
Apocalypse Now.
Ah oui, c'est grand, vrai. C'est vrai. C'est
grand
vrai.
Film, je crois que c'est un film, j'ai dû le voir plus de 10 fois.
Oui, c'est excellent.
Plus de 10 fois.
Excellent.
Parce qu'il y a vraiment des choses à réfléchir dedans, c'est très, c'est très, très consistant, Apocalypse Now. Et en plus, le Redux, c'est-à-dire vraiment la version longue, parce qu'il y a la scène des Français qui est rajoutée, avec des acteurs français d'ailleurs dedans. En 1980, Star Wars.
La suite.
Eh oui, l'Empire contre-attaque. En 82, grand film de Ridley Scott, avec Rutger Hauer, Sean Young, Blade Runner.
Ah oui.
Grand film qu'on passait au nid du fantastique, entre parenthèses. Oui, on l'a passé plusieurs fois.
Exact, ouais.
En 1984, alors, évidemment, avec Kate Capshaw et Ki-Wi Kwan, Indiana Jones et le Temple Maudit de Spielberg. Là, on est en 84. En 89, Indiana Jones et la Dernière Croisade, toujours de Spielberg avec Sean Connery.
Ah, ils ont enchaîné, là.
Et oui. En 92, il jouera dans Jeu de guerre.
Un jeu de guerre, excellent.
Il jouera le personnage de Jack Ryan.
C'est sur l'IRA, ouais.
Avec Philip Noyce, un film de Philip Noyce, donc avec Anne Archer et Patrick Bergin.
Et il y aura la suite.
Et il y a la suite après ?
Il y a un autre volet, effectivement, avec l'acteur. Donc, Jeu de guerre. Et je crois que c'est Danger immédiat, non ? Il me semble, 94.
94, Danger immédiat, exact. 94.
Oui,
je l'ai là.
Oui, c'est ça.
Danger immédiat. Ah, c'est la suite, donc, de Jeu de guerre.
Je crois que c'est un peu...
Moi, je ne l'ai pas vu, celui-là. En 97, un film de Wolfgang Petersen avec Glenn Close et Gary Oldman. Air Force One.
Ah oui, c'est.
Et oui.
Il joue le rôle d'un président. D'un policier.
Qui protège, je crois.
Oui,
c'est la
garde rapprochée, ouais.
En 2000, un film de Robert Zemeckis avec Michel Pfeiffer et Joe Morton. Apparence.
Ouais.
En 2002, grand film de Catherine Bigelow avec Liam Neeson et Peter Sarsgaard. K-19. Le piège des profondeurs, il était chouette ce film.
Sous-marin.
L'histoire du sous-marin russe, exactement.
Ouais.
En 2008, un film de Spielberg avec Shia LaBeouf et Karine Allen, c'est facile, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. En 2015, évidemment, il va remettre le costume de Han Solo dans Star Wars, Le Réveil de la Force, de J.J. Abrams. En 2019, Star Wars, l'ascension de Skywalker avec J.J. Abrams, avec évidemment Adam Driver et Oscar Isaac. Voilà un petit peu pour vous donner quelques films donc de son immense, immense filmographie.
Il y avait un film aussi avec Harrison Ford qui était un médecin qui est accusé de meurtre. Il s'évade. Le fugitif.
Le fugitif, je l'ai. Alors voyons voir.
Il y avait...
En 93.
Le fugitif.
Oui, 1993. Oui,
très bon film.
Il joue le docteur Richard David Kimball.
C'est ça. Et Frantic qui a été tourné à Paris. Frantic, 1988, excellent film. Où on retrouve un Harrison Ford. Où là, effectivement, il parlait en français, mais je pense qu'il parlait... Il n'était pas doublé, en fait. Il avait son accent américain dans le film.
Alors, est-ce que Harrison Ford a des projets à venir ? Bien sûr.
Toujours des projets.
En 2024, il jouera dans Thunderbolts. Et toujours en 2024, il jouera dans Captain America, Brave New World.
D'accord.
Donc encore du boulot pour ce jeune homme de 80 ans qui n'arrête pas, en fait.
En sachant que Harrison Ford a terminé la série des Star Wars aussi. Il meurt.
Ah, ça, j'ai pas suivi, tu vois.
Ouais. Donc là, ils l'ont fait mourir. Alors peut-être que dans le Indiana Jones, on ne sait pas si... prend sa retraite ou s'il meurt à la fin, on verra.
Alors dans le film ça on sait pas, mais
oui, donc il y a pas mal de projets encore.
Dans la réalité, oui, il raccroche le fouet, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Oui, voilà un petit peu pour vous éclairer sur ça, sur cette immense, immense carrière.
Ça fera un petit peu long.
Alors on va parler de sa biographie. Qui es-tu, Harrison? Mais d'où viens-tu? Alors évidemment, il vient de Chicago, l'Illinois. C'est sur les planches de son lycée qu'Harrison Ford débute sa carrière artistique. Faisant ses premiers pas au cinéma dans Un truand en 63, La poursuite des tuniques bleues en 67, ça j'aurais bien aimé le mater, et Zabriskie Point en 70, il joue quelques rôles secondaires sous la direction de Francis Ford Coppola, comme dans Conversation secrète et Apocalypse Now. C'est vrai qu'Apocalypse Now, il apparaît sous le rôle d'un colonel, mais tu sais, quand, c'est quand ils vont briefer le capitaine Villard.
Ah oui.
Tu vois, quand il le sort de sa piole, complètement bourré, tu sais.
Ouais.
Il l'amène dans le casernement, là, et donc du coup, là, il est entouré d'un colonel, d'un chargé des opérations spéciales, et le colonel, c'est Harrison Ford. Et là, il est vraiment, vraiment très jeune, on le voit, on le voit avec ses petites lunettes et tout.
Je crois qu'il a joué aussi dans le film Un pont trop loin.
D'accord, c'est encore plus ancien, ça.
Ah oui, il était vachement, vachement jeune, ouais.
Donc, et c'est lui, sont dans deux films dont l'action se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. L'ouragan vient de Navarone en 78 et Guerre et Passion. Oui, oui.
Ah bon?
Et Guerre et Passion en 79. Je l'ai pas vu celui-là. L'ouragan vient de Navarone. Moi, j'ai connu les canons de Navarone.
Alors, le 2, pour moi, c'est pas top.
D'accord.
C'est, oui, le 1, rien à voir. Enfin, la suite, entre guillemets, bof.
Donc du coup, George Lucas avait repéré le bonhomme et lui avait donné un rôle dans American Graffiti en 73. Mais c'est grâce à deux sagas au succès planétaire, donc Star Wars et Indiana Jones, que le comédien accède au rang de superstar dans les années 80. Tournant le plus souvent sous la direction de cinéastes confirmés comme Ridley Scott pour Blade Runner, ou Peter Weir pour Witness, Mosquito Coast, Roman Polanski dans Frantic, Mike Nichols dans Working Girl, ou à propos d'Henri, et Dalan J. Pakula dans Présumé Innocent, Harrison Ford aime à jouer sur la dichotomie, c'est-à-dire action-héros, père de famille tranquille. C'est ainsi qu'au début des années 90, il incarne avec brio l'analyste de la CIA Jack Ryan dans Jeux de guerre et Danger immédiat, deux films réalisés par Philip Noyce. Éloigné des rôles physiques, le fugitif ennemi rapproché ou Air Force One, l'acteur ne parvient guère à convaincre, comme le prouvent ses échecs au box-office avec 6 jours 7 nuits en 97 et L'ombre d'un soupçon en 99. Dans les années 2000, le comédien se fait rare à l'écran, s'essayant à des rôles de contre-emploi dans Apparence en 2000 et K-19 Le piège des profondeurs en 2002, lorsqu'il ne s'illustre pas dans les thrillers de facture plus classiques et peu lucratifs comme Hollywood Homicide en 2003 et Firewall en 2006. Il faut attendre 2008 pour retrouver Harrison Ford, alors âgé de 66 ans, dans le quatrième opus des aventures du célèbre archéologue Risque-Tout, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Dans la foulée, il enchaîne en 2010 avec le tournage de deux films au sujet plus grave. Mesures exceptionnelles, l'histoire vraie d'un chercheur sur le point de trouver un remède à une maladie génétique rare. Et Droit de passage, un drame sur l'immigration clandestine aux États-Unis dans lequel il donne la réplique à Ray Liotta et Ashley Judd. L'année suivante, il incarne un feu Ray Liotta. On en avait parlé, j'avais fait sa fiche.
Exactement, mais je crois qu'il est décédé
il n'y a pas très longtemps.
Oui,
et je me souviens encore de cet émouvant interview qu'il avait donné pour une journaliste qui était vraiment, et là tu te rends compte, c'était vraiment un chic type. La nuit suivante, il incarne un journaliste aigri dans une comédie intitulée Morning Glory aux côtés de Diane Keaton et un cowboy vieillissant dans le western de science-fiction Cowboy à envahisseur.
Ah oui, c'est vrai.
Oui.
On a des.
Avec Daniel Craig.
Ouais. C'est-à-dire qu'on a des cowboys. Qui sont pour pourchassés par des
exocoupes volantes.
Des aliens. Enfin, oui.
Il s'essaye ensuite au genre dystopique dans la stratégie Ender sous les traits du colonel Hiram Graff aux côtés des étoiles montantes comme Asa Butterfield et Abigail Breslin. Après avoir rejoint le casting musclé du troisième volet de la saga Expendables en 2014, je ne savais même pas qu'il était dedans, Harrison Ford retrouve le costume de Han Solo pour les besoins de Star Wars, le réveil de la force et l'ascension de Skywalker. Entre les deux, il campe à nouveau son personnage culte de Rick Deckard dans Blade Runner 2049 et Denis Villeneuve, et goûte l'aventure avec L'Appel de la Forêt. Alors, L'Appel de la Forêt, c'était pas franchement un film, tu sais, c'était des acteurs, on va dire, colorisés, tu vois, ça se met entre le film d'animation et le film. Assez spécial. Décidément, plus que jamais sollicité pour raviver les franchises qui ont fait sa renommée, il incarne à nouveau le célèbre aventurier des Indiana Jones et le cadran de la destinée. On le verra ensuite en président Thunderbolt dans Captain America New World Order. Parallèlement, le natif de Chicago s'essaye aux séries avec 1923 et Shrinking. Et oui, le cinéma maintenant, c'est aussi les séries télévisées.
Et oui.
Faut pas l'oublier. Ainsi est la carrière absolument immense de ce grand acteur qui est Harrison Ford, qui nous a tous fait rêver, qui nous a tous fait trembler et qu'on trouve sympatoche. C'est un acteur sympa, Harrison Ford.
Avec un, une voix, enfin la voix française.
Ouais, exact, oui, et puis une voix rock.
Ah ouais.
Tu sais, la voix un peu comme ça, tu vois.
C'est ça,
peu,
c'est ça.
Vraiment, des redescents allégables.
Alors, si on regarde les premiers Indiana Jones, ce n'est pas la même doublure. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le même acteur qui double.
C'est pas le même personnage, oui.
Il a une voix beaucoup plus haute.
D'accord.
Et je pense que bon, celui qui devait doubler à l'époque est peut-être décédé.
Il a disparu.
et voilà. Et mais la voix actuelle de Harrison Ford, c'est celle qui le suit depuis pas mal de temps. Voilà. Et c'est vrai que ça fait décaler hein, quand on est habitué à une
t'es
voix,
surpris.
Un acteur. On
ouais,
est
ouais,
surpris.
Quand t'es super fan, ça désarçonne un peu.
Moi, j'ai été surpris sur, par exemple, le film avec Steve McQueen. Bon, quand on le voit dans la grande évasion, ouais. la voix de Steve McQueen, elle est excellente. Mais quand on le voit dans le film où il incarne un marin militaire américain, la canonnière du Yangtze,
voilà, oui, oh là,
on n'a pas du tout la même voix derrière sur l'acteur et ça fait bizarre. Mais
c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant, mais on s'y habitue, oui.
En tout cas, vous allez pouvoir rêver, vous évader, et surtout...
Voilà, puis en profiter, parce qu'il revient, enfin, une dernière fois. Alors, évidemment, avec sous les traits de l'archéologue pilleur de tombes. Mais je pense qu'on passera un excellent moment, bien sûr. Tu te rends compte, on est du James Mangold.
Ouais.
Je t'ai cité tous les films qu'il a fait, rien que Le Mans 66. Moi, j'étais scotché.
Ouais.
J'étais scotché par ce film-là. J'ai dit, comment on peut tourner des choses avec... vraiment une photographie aussi pointue, les couleurs, le cadre.
Ouais.
C'est un grand cinéaste, James Mangold. Donc je pense que les images vont être époustouflantes.
Voilà, avec un Harrison Ford rajeuni, on le rappelle.
Un petit peu.
Un petit peu.
Pour les besoins du film.
Voilà.
Parce qu'en fait, il y a des retours en arrière.
Ah ben oui, voilà, c'est pas évident.
Effectivement, oui.
Enfin, pour son âge, Harrison Ford est quand même... il s'entretient.
80 ans pour aller galoper sur les plateaux de tournage, faire des scènes d'action, sauver un technicien d'un arrêt cardiaque. voilà, là,
c'est extraordinaire.
C'est l'aventure jusqu'au bout.
Voilà, on ira voir tous ces rendez-vous. Merci Pascal pour
merci à toi,
ce
Christophe.
Très bon moment de cinéma à la Brèche, on le rappelle. Eh bien oui, on va prendre quelques congés et on va se retrouver à la rentrée.
C'est la nouvelle la moins fun pour ceux qui suivent l'émission. Oui, effectivement, nous arrivons vraiment à la fin du mois de juin. Évidemment, toi, je sais que tu me parais, tu lèves le pied un petit peu au niveau de la radio.
On prend tous nos congés. Ouais.
Voilà. Alors non, on prend pas tous nos congés. On va rudement travailler en juillet.
Ouais.
Voilà, évidemment avec quelques petites vacances, mais bon, on va pas s'étaler non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à la Brèche. Hein.
Voilà. Ou c'est le rush. Ouais.
Mais voilà, justement, le cinéma en tout cas reste ouvert. Là, on fonctionne à fond. Ça sera pratiquement 80 séances par semaine. Et voilà, j'espère que les gens seront
salles climatisées.
Les salles sont climatisées, oui. Et très bien climatisées.
Voilà, vous pouvez prendre une douche d'ailleurs, un petit peu au passage.
Ouais, voilà. Non, c'est à discrétion.
Exactement. Et puis, ça sera aussi l'occasion d'aller voir un bon petit film sympathique à la fraîche.
Voilà, et puis plein, non, mais surtout plein de films. Hein. N'oubliez pas la fête du cinéma qui va battre son plein là dans pas très longtemps. Et voilà, on revient en fin août.
Eh bien oui, fin août. Ça sera le 30 août.
Mercredi
30 août.
Aux auditeurs et auditrices, voilà.
Donc, mercredi 30 août, émission Entracte, nouvelle saison revient.
Nouvelle saison, oui.
Avec Pascal, qui sera bien bronzé, bien reposé.
Oh, ça, j'en doute. Bien reposé, peut-être, ouais, mais bien bronzé, non, je suis pas trop fan. En tout cas, je tenais à vous remercier à tous et toutes qui écoutaient l'émission. Merci de porter un intérêt déjà à Radio Grand Air déjà, et merci aussi de porter un intérêt à cette émission, mais aussi au cinéma. Si vous écoutez cette émission, c'est que vous avez envie d'apprendre des choses et de venir découvrir des films. Voilà, mais on vous en remercie vraiment tous du fond du cœur. Merci pour votre régularité. On voit que l'émission fait de plus en plus, d'auditions. Et ben, ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur. On tenait à vous remercier.
Voilà,
vraiment.
Et vous pouvez pendant l'été réécouter toutes les émissions.
Oui, ouais.
Remonter.
On peut également. Il y en a beaucoup.
Pour remonter le temps. C'est pas mal.
C'est vrai, quoi. Dans tous les cas, profitez du beau temps, profitez de l'été. revenir, profiter de vos vacances, de vos familles, sortez, allez visiter la France aussi. C'est important, la France et d'autres pays, si vous avez l'occasion d'aller voyager ailleurs. Et mais voilà, mais profitez de cet été, c'est important. On se retrouve vraiment avec grand plaisir fin août. Et pour, oui, pour une nouvelle saison, de nouvelles aventures. Oui, épique et fantastique.
Ça sera pour la 76e, hein. On se retrouvera pour la 76e.
Le numéro 76, oui, mais toute une histoire. Toute une future histoire.
Et bien, Pascal, merci pour le travail. Et puis, bon courage.
Merci,
pendant l'été.
Merci, on va usiner.
Et puis le mot de la fin.
Et le mot de la fin, oui, avec une certaine tristesse quand même. Mais prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé. Eh bien, écoutez Radio Grand Air, venez faire la fête du cinéma avant de partir en vacances.
C'est ce week-end.
Et pareil, pour tous ceux qui bossent dur, moi je vous souhaite bon courage, parce qu'il y en a qui travaillent aussi l'été, qui n'ont pas la possibilité de prendre de vacances. J'ai une grosse pensée pour vous. Je serai avec vous aussi, vous inquiétez pas. Moi aussi, je bosse. Je vais bosser un petit peu.
Merci Pascal.
Merci à toi Christophe.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
À la rentrée.
À la rentrée.